Le journal Alexandra Dubucheron. Bonjour Alexandra.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Pas de compromis cette nuit au Congrès américain. Le budget n'est pas bouclé, c'est donc le shutdown. Fermeture totale ou partielle de plusieurs administrations. Quelles conséquences concrètes? On voit ça avec Grégory Phillips à Washington dès le début de ce journal. On entendra aussi le sénateur Bernie Sanders qui dénonce les illusions de Donald Trump.
Emmanuel Macron est attendu au Tchad aujourd'hui. Réveillon avec les soldats de Barkhane. Il rencontrera aussi son allié dans la lutte anti-djihadiste, l'autoritaire président Déby.
Les dérives autoritaires également du Premier ministre Viktor Orban en Hongrie, des milliers de personnes sont encore descendues dans les rues hier pour dénoncer sa loi sur le temps de travail.
En France, quel acte 6 pour les gilets jaunes? Le gouvernement s'attend à une baisse de la mobilisation et le flou demeure sur les lieux et les modes d'action.
Nous reviendrons également sur l'arrestation de Peter Sherif. Contrairement à ce qu'a laissé entendre le gouvernement dans un premier temps, ce djihadiste français ne fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt dans le dossier de l'attentat de Charlie Hebdo. L'invité ce matin, Caroline?
C'est l'une des 10 scientifiques les plus importantes de l'année 2018 selon la revue Nature. Elle est humble, elle vient de bouger la tête en disant oh oui, bon, moi c'est pas le plus important. Elle est climatologue, elle est avec nous, c'est Valérie Masson-Delmotte, présidente du groupe de travail sur le changement climatique du GIEC. Nous parlerons bien entendu climat.
La pression est donc montée d'un cran aux États-Unis cette nuit, faute d'accord au Congrès sur le budget 2019. La paralysie des administrations fédérales a commencé il y a quelques heures. C'est le fameux shutdown, Grégory Phillips.
Les négociations de dernière minute sur la colline du Capitole n'ont pas abouti et depuis minuit pile, heure de Washington, une partie de l'administration américaine est donc paralysée. Concrètement, les ministères de la Sécurité intérieure, de la Justice, du Commerce, mais aussi les services fiscaux ferment ou vont fonctionner au ralenti. Incertitude sur les parcs nationaux, les musées de la capitale ou la Statue de la Liberté à New York qui peut-être devront aussi fermer leurs portes. En tout, 800 000 fonctionnaires sont concernés. Soit ils seront invités à rester chez eux, soit ils seront réquisitionnés mais ne pourront pas être payés immédiatement, faute de budget fédéral. Depuis que Trump est à la Maison-Blanche, c'est la troisième fois que cette situation se produit. Le premier shutdown en janvier avait duré 3 jours, puis un deuxième, quelques heures seulement, mais celui-ci risque d'être long, a prévenu le président. Au cœur de ce bras de fer, il y a son projet de construction d'un mur à la frontière mexicaine. La Maison-Blanche voulait que le Congrès débloque 5 milliards de dollars, ce que les parlementaires ont refusé. Washington, Grégory Phillips, France Info.
Et parmi ces parlementaires, il y a l'ancien candidat démocrate à la présidentielle, Bernie Sanders. Pour le sénateur du Vermont, les démocrates ne sont pas à l'origine du blocage. Écoutez.
2 days ago, the United States Senate.
Il y a seulement 2 jours, le Sénat des États-Unis avait trouvé un accord pour éviter ce shutdown, cette paralysie du gouvernement, afin que le budget fédéral soit débloqué au moins jusqu'en février. Mais après, que s'est-il passé? Eh bien, le président Trump a regardé la télévision, il a vu quelque chose sur Fox News, et il a changé d'avis. Malheureusement, les représentants et les sénateurs républicains l'ont suivi dans cette voie. Écoutez, je pense que ce mur à la frontière mexicaine est une idée absurde, un gaspillage d'argent et dépenser 5 milliards de dollars pour un mur, ce n'est pas pour moi une priorité. On ferait mieux de se concentrer sur les familles et les ouvriers de ce pays plutôt que sur les illusions de Donald Trump.
Bernie Sanders sur la chaîne américaine CNN. Les deux chambres doivent reprendre leurs travaux à midi, heure de Washington, ce samedi. Et selon l'agence Bloomberg ce matin, Donald Trump a également évoqué hier la possibilité de limoger le président de la Fed, la réserve fédérale américaine. La frontière mexicaine, pierre d'achoppement également entre Trump et la justice. Le président américain a signé un décret début décembre pour rejeter automatiquement les demandes d'asile des migrants arrivés clandestinement par cette frontière. Un décret que la Cour suprême américaine a refusé de valider hier.
Emmanuel Macron s'envole pour N'Djamena, au Tchad, cet après-midi.
Où il s'apprête à passer le réveillon de Noël, dîner préparé par le chef de l'Élysée avec les soldats de la force française Barkhane. Demain dimanche, le président de la République doit déjeuner avec son homologue tchadien, Idriss Déby, grand allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, Claude Guibal.
C'était il y a 2 semaines à peine, comme un cadeau avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, la signature d'un prêt de 40 millions d'euros, coup de pouce de la France à son allié tchadien pour lui permettre de payer les salaires en retard de ses fonctionnaires. Paris soigne le Tchad, doté d'une armée efficace, rompue au combat. Elle le considère comme le fer de lance de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Avec la montée en puissance de Boko Haram sur les bords du lac Tchad, le pays est de plus en plus fragilisé, y compris au niveau de sa sécurité alimentaire. La présence présence des djihadistes effraie les pêcheurs. Les agriculteurs, eux, désertent les zones à risque. Ils n'osent plus semer sans savoir s'ils pourront assurer les prochaines récoltes. La capitale N'Djamena doit faire face à cet exode rural, ajouté au flux de réfugiés des pays frontaliers. Situation périlleuse, alors que l'économie du pays, basée sur le pétrole, a profondément souffert de la baisse du prix du baril. Mais pour Idriss Déby, au pouvoir depuis 28 ans, la lutte contre le terrorisme est aussi une forme de rente qui lui permet de bénéficier du soutien et de l'assistance de la communauté internationale qui, en contrepartie, ferme les yeux sur sa gestion autoritaire du pays. Élections contestées, répression brutale de l'opposition, corruption, Idriss Déby, un des plus anciens chefs d'État africains en exercice, est sur la liste noire des organisations des droits de l'homme.
Claude Guibal pour France Culture. En Hongrie, c'était le dernier cri de colère avant la trêve de Noël. Plus de 5000 manifestants ont défilé hier dans la capitale contre la réforme du temps de travail. Une loi promulguée la veille et encore défendue hier par le Premier ministre Viktor Orban qui fait passer de 200 à 400 le nombre d'heures supplémentaires légales par an. Les employés auront 3 ans pour les payer. Reportage dans les rues de Budapest de Florence Labruyère.
Les Hongrois ont défilé dans la bonne humeur. C'est le parti satirique hongrois qui a ouvert la marche avec un discours ironique. Merci au gouvernement, grâce à la loi sur les heures supplémentaires, on va enfin pouvoir travailler 8 jours sur 8. Mais cette loi n'est pas la seule raison de la colère des manifestants, comme l'explique Cathy, une étudiante de 19 ans.
Dans les hôpitaux, la qualité des soins est très mauvaise. Ça pourrait aller beaucoup mieux parce qu'on a reçu des fonds européens. Mais bien sûr, le gouvernement a volé tout l'argent.
C'est la 7e manifestation en 10 jours à Budapest. Malgré la forte mobilisation, Peter, professeur de français, n'est pas très optimiste.
Je pense que les gens ont compris que c'est le dernier moment pour manifester. On a encore le droit de manifester, ça ne va pas durer. C'est une dictature qui commence à s'installer. On n'en est pas encore là, mais on la voit venir.
Les partis d'opposition et les syndicats sont déterminés à poursuivre le mouvement. Si le gouvernement ne recule pas, ils se disent prêts à lancer un mouvement de grève et à bloquer des routes.
Florence Labruyère, correspondante de France Culture en Hongrie.
France Culture, 8h07, suite du journal. En France, certains gilets jaunes ne désarment pas.
Et le gouvernement se prépare à un 6e samedi de mobilisation, même s'il s'attend à voir moins de monde dans les rues pour ce dernier week-end de Noël. Le dispositif de sécurité a d'ailleurs été allégé, mais cette mobilisation risque d'être plus difficile à appréhender pour les forces de l'ordre. Tout simplement, Delphine Evenou, parce qu'on ne sait pas très bien où les gilets jaunes comptent se rassembler.
Sur les réseaux sociaux, pas d'unanimité, certains appellent à déserter Paris quand d'autres veulent se rassembler place de l'Étoile, comme les samedis précédents, à la Défense ou bien encore dans le quartier de l'Opéra. Mais la page Facebook d'Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, mentionnait hier encore Versailles, ce qui a poussé la préfecture des Yvelines à fermer préventivement le château et le domaine pour la journée. Un millier de manifestants sont attendus. À Bordeaux et Toulouse, des véhicules blindés seront positionnés en soutien aux forces de l'ordre. Dans une vingtaine de villes, des lieux de rassemblement sont relayés, mais tout reste flou. L'idée est de déstabiliser le gouvernement, explique Maxime Nicole, le populaire flyrider sur Facebook.
Le gouvernement ne sait pas ce qui va se passer samedi, ne sait pas où ça va se passer, ne sait pas combien de personnes vont être là. Il y a énormément de gens qui préparent des actions sur tout le territoire, donc ce sera de pire en pire. Ouais.
Les axes routiers devraient notamment être perturbés pour ce premier jour des vacances de Noël, en particulier aux frontières avec la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne, où doit se rendre une autre figure des gilets jaunes, Priscilla Ludowski. Les poids lourds pourraient ainsi être bloqués.
Et toujours dans cette crise des gilets jaunes, la phase 2 de la concertation nationale imaginée par l'exécutif devrait commencer mi-janvier et durer 2 mois. C'est la phase de débat avec les citoyens. Le Premier ministre envisage des tirages au sort pour faire participer tous les Français, quelle que soit leur implication dans la vie publique. C'est ce qu'a indiqué hier Édouard Philippe. Après, les députés, les sénateurs ont à leur tour donné leur feu vert hier soir aux mesures annoncées par l'exécutif. 4 mesures contenues dans le projet de loi spécial gilets jaunes. Le texte devrait être rapidement promulgué. Mais si les parlementaires ont joué le jeu face à l'urgence, qu'en sera-t-il des prochaines réformes? On fait le point sur le calendrier 2019 avec Maxence Lambrecht.
Passé le mois de janvier, ici l'agenda est vide.
Personne ne sait encore ce qui va se passer dans la saison 2, mais vous abordez l'année 2019 sous haute surveillance, démocratique et sociale.
La socialiste Laurence Rossignol est aussi pessimiste que le communiste Pierre Laurent.
Je pense que le gouvernement ne pourra plus maintenant échapper à cette demande sociale qui s'est exprimée cet automne et qui va continuer de s'exprimer tout au long de l'année 2019. Donc effectivement, la réforme des retraites telle qu'elle est pour le moment envisagée par le gouvernement, telle qu'elle était envisagée jusque-là, ça va devenir très compliqué, à mon avis, en 2019.
Oui. Très compliqué aussi, sans doute, pour la réforme de l'assurance chômage, mais le sénateur En Marche, Arnaud de Belenet, mise tout sur le débat.
Je pense que le débat du organisé par le président de la République permettra que ces sujets soient abordés de manière plus sereine, plus appropriée par chacun.
Un changement de méthode jugé indispensable par le patron du groupe centriste Hervé Marseille.
Il peut toujours faire des réformes, mais il faut que, évidemment, la méthode soit différente de celle de 2018. C'est-à-dire qu'il respecte le Parlement, il respecte les syndicats, il respecte les maires et leurs associations pour faire avancer les dossiers.
Et notamment celui de la réforme des institutions, mis de côté depuis l'affaire Benalla l'été dernier.
Maxence Lambrecht, Valérie Masson-Delmotte, je me tourne vers vous. Vous êtes coprésidente du GIEC. Les prochaines réformes du gouvernement pourraient donc être compliquées à faire passer, on vient de l'entendre. Cela peut aussi valoir pour les réformes sur la transition écologique. On rappelle que la hausse des taxes sur les carburants ont été l'épicentre de la contestation. Est-ce que cela vous inquiète ?
Le terme d'inquiet n'est pas tout à fait adéquat. Peut-être, je voudrais juste rappeler ce que montrent les connaissances aujourd'hui par rapport à des transitions ambitieuses. C'est qu'elles ne peuvent fonctionner que si elles sont éthiques, équitables et justes. Et il y a deux conditions. La première, c'est que chacun puisse prendre part aux discussions et aux décisions. Et que chacun ressente qu'il fait sa juste part par rapport à ses moyens. C'est ce que montre le rapport du GIEC sur 1,5 degré. Et c'est justement le défi qui est devant nous, je pense, en France comme ailleurs.
Donc pas trop taxé de façon injuste. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, qu'on retrouve après ce journal. Peter Sherif a-t-il vraiment joué un rôle important dans l'attentat de Charlie Hebdo ? C'est en tout cas ce que laissait entendre la ministre de la Défense, Florence Parly, après l'annonce de l'arrestation de ce djihadiste français à Djibouti. L'homme de 36 ans était certes proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attaque, mais Florence Turm, la réalité judiciaire apparaît un peu plus complexe.
Ancien membre de la filière des Buttes-Chaumont, le nom de Peter Sherif apparaît dans le dossier des attentats de Charlie Hebdo pour avoir maintenu des contacts téléphoniques réguliers avec les frères Kouachi depuis le Yémen où il est parti en 2011 et où il a grimpé au sein de la hiérarchie d'Al-Qaïda. Mais Peter Sherif n'est pas visé par un mandat d'arrêt dans cette enquête et son nom ne figure pas parmi la liste des 14 personnes dont le parquet vient de demander le renvoi aux assises. Pour Antoine Comte, avocat de plusieurs victimes, il semble donc difficile de le présenter comme le commanditaire possible des attaques de janvier 2015.
On a quand même quasiment 4 ans d'instruction derrière soi, donc on ne peut pas dire à ce stade-là que les magistrats instructeurs qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied dans ce dossier n'aient pas vu qui pouvait être un commanditaire. La personne apparaît peut-être dans une conversation téléphonique, ça n'en fait pas un commanditaire. De toute manière, ce sont des dossiers extrêmement difficiles. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont renvoyées devant la juridiction d'assises. Il va falloir qu'on démontre que ceux qui sont renvoyés, pour certains d'entre eux, savaient comment se déroulerait le projet lorsqu'ils ont prêté soit une voiture, soit en l'occurrence des armes aux assassins. Ce sont toujours des démonstrations extrêmement complexes. Beaucoup de sagesse, de grâce dans ces affaires-là, qui sont très très douloureuses pour tous ceux qui les ont vécues.
3 des 14 suspects font aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt. Ayad Boumediene, la compagne d'Amélie Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, ainsi que les frères Belloussine, partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. 2 hommes présumés morts depuis.
Florence Sturm pour France Culture. Une opération plutôt insolite. Hier à Toulouse, plusieurs associations ont mené un test grandeur nature avec des volontaires des consommateurs de fruits et légumes pour voir si on retrouve du glyphosate dans leurs urines. Le but est ensuite de porter plainte collectivement contre les fabricants, voire les politiques qui continuent à autoriser ce pesticide. Reportage à Toulouse de Stéphane Iglesis.
Ces tests d'urine ont été remis à un huissier. Les 50 inscrits étaient là à la fois pour savoir quelle quantité de ce pesticide contient leurs échantillons, mais aussi pour porter plainte. À l'heure actuelle, plusieurs centaines de personnes ont déjà fait ce test en France, et dans 100% des cas, le taux de glyphosate est de 3 à 35 fois supérieur aux limites autorisées. Pascal Barbier, d'Europe Écologie Les Verts.
Aujourd'hui, il faut arrêter d'utiliser les pesticides qui ont été démontrés comme dangereux. Ça fait longtemps maintenant qu'on sait que le glyphosate est soupçonné d'être cancérogène, qu'il est dangereux. Et pourtant, on n'a toujours pas encore arrêté son exploitation, son utilisation.
Eve-Anne mange bio, elle achète tout dans des AMAP, donc chez des paysans qu'elle connaît, mais elle est quand même inquiète.
Quand on mange au resto, quand on mange à l'extérieur, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Après, quand on en parle avec les agriculteurs, notamment nos producteurs de légumes, pour eux c'est un faux problème dans le sens où il y a une focalisation sur le glyphosate et que de l'interdire juste lui, il y aura juste d'autres produits qui auront le même impact limite, voire pire, mais pour lequel on n'aura pas encore de recul.
La France s'était engagée à interdire le glyphosate dans 5 ans, mais son interdiction n'a pas été inscrite dans la dernière loi sur l'agriculture votée cette année.
Stéphane Iglesis, les écoles resteront fermées aujourd'hui à La Réunion, à l'approche du cyclone Silida. Le cyclone devrait passer à une centaine de kilomètres des côtes. La météo dans l'Hexagone, la pluie traverse le pays de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est ce matin. Les pays de la Loire, le centre et l'Île-de-France se réveillent sous un ciel couvert. Des éclaircies à noter sur la Bretagne, la Normandie, près de la frontière belge et de la Méditerranée. Les minimales iront de 3 à 12 degrés.